autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, à la découverte d'un monde incroyable, invisible à l'œil nu et omniprésent sur Terre, dans le sol, comme sur mer et dans l'air, sur notre peau et jusque dans nos intestins. C'est le monde invisible du vivant, pour reprendre le titre de l'ouvrage à nul autre pareil, de nos invités, la professeure Pascale Cossard de l'Institut Pasteur, internationalement reconnue pour ses recherches et ses découvertes en microbiologie, s'est alliée à l'artiste de renommée international Fabrice Ibert pour nous offrir un sacré voyage en microbie. Les aquarelles colorées de Fabrice Ibert illustrant avec humour et au plus près de la réalité les formes multiples et insensées du vivant dans l'infiniment petit et le rôle essentiel de tous ces micro-organismes dans le développement et le maintien de la vie sur Terre. Car la plupart de ces bactéries, archées, champignons, micro-algues, protozoaires et virus nous sont indispensables, utiles et même bénéfiques. Seule une infime minorité de ce qu'on appelle des microbes mériterait donc leur mauvaise réputation. À vous d'en juger sur pièce, car nous avons un exemplaire de cet ouvrage ludique, scientifique et artistique à vous offrir autour de la question « Comment fonctionne tout ce monde invisible du vivant ?» Bienvenue pour un voyage inattendu en microbie.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre piscine devient verte à l'occasion? Ou pourquoi ce n'est pas une bonne idée de manger des sushis au poulet cru? Et qu'est-ce qui nous rend si souvent malades? De plus, qu'est-ce qui permet de déterminer le sexe des occupants d'une maison simplement en analysant la poussière des cadres de porte? Et finalement, qui joue un rôle capital dans notre intestin pour le maintien de notre santé et de notre humeur? Le point commun entre toutes ces questions? Les microbes. Qu'ils soient sous forme de bactéries, champignons ou micro-algues, les micro-organismes sont partout autour de nous. Ils ont une grande capacité d'adaptation qui leur permet d'être présents dans tous les environnements de la planète, des pôles à l'équateur, en passant par vous. Oui, vous. Vous l'aurez compris, les micro-organismes sont essentiels à la vie telle qu'on la connaît. Et s'ils venaient à disparaître, nous ne serions plus là. Vous ne verrez plus jamais les micro-organismes de la même façon. Vous allez même les apprécier, on vous le garantit.
Nous aussi, comme le médiateur scientifique de l'Université de Laval au Québec, on vous garantit que vous ne verrez plus jamais les microbes de la même manière, surtout après avoir eu en main, sous les yeux et entre les oreilles, cet ouvrage inattendu sur la forme comme sur le fond, Le monde invisible du vivant, qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob, un véritable ovni scientifique et artistique. Bonjour Pascale Cossard.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager votre science des micro-organismes. Alors, je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut Pasteur, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Vos travaux de recherche et vos découvertes sur les micro-organismes ont valu les plus prestigieux prix scientifiques. Vous êtes également l'auteur d'un ouvrage de référence, La microbiologie, aux éditions Odile Jacob. Mais je veux dire que je ne m'attendais pas vraiment à vous découvrir, dessiné par Fabrice Ibert, sous les traits d'une jolie bactérie cousue de petits fils cheveux blonds, répondant à toutes les questions, les plus simples comme les plus originales et les plus facétieuses sur ce monde invisible du vivant. Pourquoi et comment avez-vous décidé de vous lancer dans cette géniale entreprise, Pascale Cossard?
En fait, c'était la résultante du fait que mon premier livre, que je pensais allait être en grand public, ne l'était pas.
La microbiologie.
La nouvelle microbiologie. Donc, je m'étais toujours dit, il faudra que je me remette à l'ouvrage. Et un jour, je lis un article dans un des journaux de l'Institut Pasteur qui commentait un article publié par Olivier Schwartz. Et il y avait un dessin de Fabrice Ibert. Et je trouvais que ce dessin faisait un petit clin d'œil à l'article qui m'a plu. J'ai contacté Fabrice et je lui ai dit « ce serait peut-être sympa qu'on fasse quelque chose ensemble ». Et il est venu me voir.
Et ça donne cet ouvrage. Fabrice Ibert, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous depuis chez vous. Je rappelle que vous êtes un des artistes français contemporains les plus connus, reconnus internationalement et exposés dans le monde entier. Vous vous intéressez aux liens entre art et science, mais qu'est-ce qui vous a décidé à accepter cette proposition ? Je ne sais pas si elle est honnête ou malhonnête, en tout cas très originale de Pascal Cossard.
Quand j'ai rencontré Pascal Cossard à l'Institut de France d'ailleurs, elle m'a parlé de ce projet-là et j'ai tout de suite dit oui parce que j'adore les aventures et puis je pensais qu'avec Pascal on pouvait j'imaginais très bien qu'on pouvait aller très très loin dans plein de choses et puis en plus j'avais envie de découvrir ce que c'était ce monde invisible du monde des microbes et donc en faisant ce livre-là c'était une façon aussi d'apprendre. Voilà.
Une façon d'apprendre. On va y venir. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de dessiner Pascal Cossard en bactérie, professeur Pascal Cossard, en très mignonne petite bactérie. Vous êtes, c'est pas très clair. Alors effectivement, il y a le ver ibère, donc c'est un petit homme vert ou un petit virus vert peut-être, je ne sais pas.
C'est un petit virus vert. Les premières conversations avec Pascal, elle me parlait des bactéries, la joie des bactéries, l'importance des bactéries dans notre vie, qu'elle était beaucoup plus positive que négative, donc je l'ai fait joyeuse et comme ça. Et puis, elle me parlait aussi des virus qui étaient des choses mortes ou des choses sans vie, pour me corriger. Et je me suis dit, mince, dommage, je ne suis pas tout à fait sans vie, un virus. Donc, je me suis fait en virus. Je me suis dit, allez, hop, j'y vais.
D'accord, un virus, une bouille verte et puis voilà. des petits cheveux noirs sur le crâne. On a parlé bactéries, on a parlé virus. On n'a pas évoqué un mot, un mot que vous employez, que vous aimez et que vous n'aimez pas, Pascal Cossard, c'est le mot microbe.
Oui, c'est un mot qui prête à confusion. C'est un mot qui a été inventé par un monsieur qui s'appelle Cédillo, qui était chirurgien et qui vivait au même moment que Pasteur. Et Pasteur et Robert Koch, donc à la fin du 19e. Et quand Pasteur a commencé à décrire qu'il y avait des micro-organismes, des animalcules, des bactéricides, des choses qui provoquaient la fermentation, etc., il utilisait vraiment toutes sortes de mots. Et quand ce mot microbe a été inventé par Cédillo, il a été adopté. Mais il faut bien se rappeler qu'au moment où Pasteur travaillait, il s'occupait essentiellement soit de contamination du vin, soit de maladies des animaux, et à la fin de sa vie, des maladies des hommes. Donc le mot microbe a été associé à quelque chose de nocif, de toxique. Or, microbe veut dire quoi ? Veut dire petit être vivant, et les microbes participent à tout l'équilibre de la vie, que ce soit chez les hommes, chez les animaux, chez les plantes, dans l'environnement. Et donc le mot microbe ne veut pas dire en fait quelque chose de négatif. Et donc je préfère le mot micro-organisme qui lui veut dire petit organisme vivant. Et je pense que si vous parlez à n'importe qui d'un micro-organisme, il n'associe pas forcément ce mot à une maladie.
Parce que dans cette démarche, on s'en rend bien compte, scientifique et artistique, ludique aussi, il y a bien sûr le fait, c'est pas de réhabiliter, mais de nous faire prendre conscience d'abord de la foultitude de micro-organismes dans des formes, dans des modes de vie totalement insensés, mais que la plupart d'entre eux sont non seulement bénéfiques, mais indispensables.
Ils sont non seulement bénéfiques, mais ils sont indispensables. Ils sont indispensables, par exemple, dans notre intestin pour produire des vitamines qu'on peut éventuellement acquérir par la nourriture, mais qu'on n'est pas capable de fabriquer. Ils sont indispensables pour les racines des plantes qui ont besoin d'avoir de plus en plus d'azote pour pousser. Ils sont indispensables dans l'océan pour l'équilibre de toute cette faune qui est dans l'océan, de toute cette flore qui est dans l'océan, ce qu'on appelle le plancton, etc. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup d'organismes qu'on ne voit pas et qui sont bénéfiques à tout l'équilibre de notre vie sur Terre.
Fabrice Ibère, pour un artiste, plasticien, dessinateur, peintre, vous avez utilisé l'aquarelle, c'est jouissif de dessiner autant d'organismes aussi étranges et en même temps dans une rigueur scientifique absolue. Ça n'en a pas l'air, mais ça l'est.
Absolument, absolument. Non, mais c'était très intéressant d'avoir toutes les formes, en fait. C'était un long travail avec Pascal de trouver toutes les formes. J'ai dessiné beaucoup, j'ai essayé d'être exact le plus précis possible. Et en fait, de rendre visible l'invisible, c'est une notion déjà artistique. Donc, c'était une façon de s'engager depuis le début et de mettre ça en place. Et de faire des images aussi agréables à regarder. Mettre des couleurs, c'est des choses qui n'ont pas forcément de couleurs, des choses comme ça. Inventer des histoires, être à la fois drôle et assez analogique et même métaphorique parfois. C'est tout ça, c'était un engagement qui était très important dans ce livre.
Il était sous haute surveillance. Absolument. Il n'allait pas été rejeté.
Oui, oui, parce qu'on voit bien qu'il y a et la science et l'art. En tout cas, ça marche, ça fonctionne vraiment. C'est ouais, jouissif, je trouve, c'est le mot. C'est le mot employé autour de la question comment fonctionne. Donc, tout cet incroyable et immense monde invisible du vivant. Question que vous posez, petit virus vert, à la professeure Gossard en bactéries. En tout cas, c'est une question qui permet de sortir, on l'a dit, des clichés sur les méchants microbes. À ce sujet, nouvel éclairage et nouvelles questions soulevées par le professeur Marc-André Sellos du Muséum National d'Histoire Naturelle. Il est lui spécialiste des champignons et des symbioses, auteur entre autres de Jamais seul. Il était récemment notre invité. Écoutez, c'est pour vous.
Pour un microbiologiste comme moi, la perspective de parler de la fraction invisible du vivant, en fait, c'est parler du cœur du vivant, hein. C'est absolument crucial. Et la question que j'ai envie de poser, c'est comment arriver à faire comprendre aux gens le rôle que ça a dans leur vie quotidienne et les conséquences que ça peut avoir, c'est-à-dire quoi faire, quoi ne pas faire en fonction de ça, alors même que les conséquences ne peuvent apparaître que très tardivement, puisque quand on influence sur ce monde invisible, c'est pas visible à court terme, même si ça peut être catastrophique à long terme. Alors comment faire pour expliquer aux gens, ou les convaincre, ou leur montrer ce qu'est ce monde invisible et ses conséquences pour eux?
Est-ce que vous avez la réponse, Pascal Gossard ?
Je peux donner une réponse qui m'est venue à l'esprit. C'est que quand je vous dis ou quand on dit que, par exemple, tout ce petit monde qui est dans votre intestin est absolument indispensable pour vivre en bonne santé, on est capable maintenant dans les laboratoires de créer des animaux, par exemple des souris, qui n'ont absolument aucune flore.
Aucune flore intestinale, pas de microbiote.
Rien, ils n'ont rien. Eh bien, ces animaux-là, vous les infectez avec n'importe quel petit agent pathogène, que ce soit un virus, une bactérie, un parasite, etc. Ils sont très malades, ils sont beaucoup plus malades qu'une souris qui a un bon microbiote intestinal. Donc ça, c'est une comparaison. Évidemment, on n'a jamais fait des hommes sans microbiote, mais entre les deux, on a des hommes des hommes ou des femmes, des humains qui ont moins de flore, ou en tout cas qui ont une flore déséquilibrée, et ces gens-là sont en moins bonne santé, ou ils sont plus sujets aux infections à l'arrivée d'un pathogène.
D'où l'intérêt, d'où l'utilité de tous ces micro-organismes. Fabrice Hibert, dans cette... c'est pas vraiment une conversation, à chaque fois ce sont des questions très simples. Hein. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné, le plus surpris ?
Alors le plus surpris, moi, c'était de m'apercevoir que le virus était un organisme non vivant. Alors ça m'a beaucoup étonné. Donc j'ai essayé de trouver la solution. J'ai posé les questions 1000 fois à Pascal et c'était un jeu. Mais il y avait tellement de choses sur en fait, que notre vie entière est générée par ça, et ça, c'était juste génial. Et puis d'apprendre des formes des micro-organismes que je ne connaissais pas, comme les archées, la forme des protozoaires, la différence entre les levures et les champignons. Ces choses-là, c'était vraiment très étonnant. Et puis même que les choses qui transforment notre monde, ça peut être aussi, ça peut aussi transformer notre vie à cause de... Ces micro-organismes, en fait, gèrent beaucoup de notre capacité à vivre dans notre monde. Donc il faut faire très, très vigilant, en fait.
Très vigilant, très attention. On a parlé des virus qui, effectivement, sont des organismes pas vivants. Ce sont des parasites. C'est une question, d'ailleurs, qui se pose dans cet ouvrage.
Oui, moi, j'aime dire, c'est que les virus, ce sont des parasites dans le sens où ils ne sont pas capables de vivre par eux-mêmes. Ils sont obligés de rentrer dans une cellule et de la pirater. Donc, en gros, ils rentrent, ils se déshabillent. Ce qui est à l'intérieur du virus, c'est-à-dire leur patrimoine génétique, ça peut être de l'ADN, de l'ARN, j'explique bien ce que c'est.
Oui.
Ça, c'est dupliqué, copié par la cellule. Elle ne se rend pas compte, mais elle les fait vivre. Et puis, il y a des protéines qui sont faites et d'autres virus sont faits. La cellule ne s'est pas rendue compte, mais elle a été obligée de faire que ces virus se sont multipliés. Mais un virus, vous le mettez sur une table, il ne se multiplie pas, il ne grossit pas, il ne grandit pas. Ça n'est pas un organisme vivant. Vous le mettez dans la terre, il ne va pas se multiplier. Il est obligé de rentrer dans une cellule. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Les virus sont capables d'infecter tous les organismes du monde du vivant. Et dans le livre, je l'explique, et Fabrice l'a illustré, le monde du vivant est fait en trois grandes catégories, et toutes ces catégories peuvent être infectées par des virus.
Voilà, donc si les virus, c'est un monde à part. C'est un monde à part qui ne vit que en parasitant les autres, en se faisant reproduire par les autres.
Exactement.
Mais qui a aussi, qui nous permet, comme à tous les mammifères, d'avoir du placenta et de... Et donc,
Disons que les virus participent, on va dire, à l'équilibre de l'environnement. Ils participent à, disons, le fait qu'il y a des micro-organismes qui vont être tués, ceux qui ne sont pas bons, et d'autres qui vont être avantagés. Il ne faut pas oublier, les virus peuvent infecter des bactéries. Les gens ne se rendent pas compte de ça, mais les virus peuvent infecter des bactéries, les virus peuvent infecter des algues, etc. Donc, voilà.
Revenons-en à ces bactéries, justement. Alors, une question simple et saugrenue à la fois. Dans cet ouvrage, Le monde invisible du vivant, les bactéries se parlent entre elles? Est-ce que c'est vrai, ça, Pascal Caussin?
Ah oui, elles se parlent entre elles, ou en tout cas, elles communiquent entre elles. Elles communiquent entre elles grâce à des petites molécules chimiques, des petits composants chimiques qu'elle crache. Alors, si une bactérie de la même espèce que celle qui a craché un composant est dans les parages, elle peut reconnaître ce petit composant et finalement, elle le reconnaît en se disant « Tiens, j'ai ma sœur qui est là pas très loin ». Et du coup, il y a tout un système qui fait qu'on peut avoir, par exemple, deux sœurs ou toute une famille qui va décider, puisque les signaux sont là, de faire la même chose en même temps. Et ça permet aux bactéries d'agir en groupe.
Unicellulaires, des êtres vraiment minuscules, invisibles, unicellulaires.
Elles sont unicellulaires.
Et qui peuvent s'allier.
Voilà, et c'est ce qu'on appelle le quorum sensing. Elles sentent qu'elles sont arrivées au quorum et qu'elles peuvent travailler ensemble. Et ça, c'était une des grandes découvertes. Et alors, vous allez dire, à quoi ça leur sert? Elles décident, par exemple, qu'elles vont fabriquer une toxine. Donc, elles sont toutes ensemble dans un organisme. Elles ne vont pas fabriquer cette toxine si elles sont toutes seules, mais si elles sont très nombreuses, elles en fabriquent. Et du coup, elles peuvent réellement infecter. Ou alors, vous avez des bactéries qui sont capables de produire de la lumière. Mais elles ne produisent de la lumière que si elles sont en quantité suffisante. Et c'est ce que je raconte souvent, c'est cette histoire d'un petit calamar qui a une poche dans laquelle on a des vibrios qui produisent de la lumière. Donc, si vous avez un calamar qui, la nuit, va chasser, la lune éclaire le calamar et produit une ombre portée sur le sable. Les prédateurs du calamar reconnaissent le calamar à cause de l'ombre qui est sur le sable. Sauf si, dans la petite poche du calamar, il y a des vibrios qui produisent de la lumière en grande quantité et qui font qu'il n'y a pas d'ombre portée. Et à ce moment-là, le calamar se promène tout seul et il est à l'abri des prédateurs.
Donc le calamar peut aller manger et faire ses affaires grâce aux bactéries qu'il habite, si j'ai bien compris.
Voilà.
C'est vraiment un voyage merveilleux, j'ai envie de dire, au pays des bactéries et au cœur de ce monde invisible du vivant que vous nous proposez, donc à quatre mains, dans cet ouvrage, Le monde invisible du vivant. Donc, je vous le rappelle, chers amis auditeurs, nous avons un exemplaire à vous faire gagner si vous habitez loin d'ici et si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook autour de la question « Comment fonctionne ce monde invisible du vivant ?» Et si on lui donnait la parole pour de rire, évidemment, on écoute La Bactérienne, morceau de choix, signé des petits chanteurs à la gueule de bois sur RFI.
100 000 milliards de bactéries, ne croyez pas que l'on oublie. Matin au soir, soir au matin, on s'occupe de vos intestins. On ne voit jamais le bout du tunnel et notre vie semble cruelle. Car quand on trime, c'est à la mine pour y extraire vos vitamines. Mais croyez-nous, on aime bosser, car c'est un sacré beau métier. Transformer les matières premières en un système immunitaire. Alors pour voir la vie en rose, ce qu'on demande, ce n'est pas grand-chose. Un peu de considération, c'est notre seule revendication. Entendez-vous du fond de vous?
microbiote, la flore intestinale. Le microbiote, la flore intestinale. 100 000 milliards de bactéries, ne croyez pas que l'on roupit. Matin ou soir, soir ou matin, on s'occupe de vos intestins. Les découvertes de Louis Pasteur ont déclenché la grande peur qui fit souhaiter à certains la fin même du genre bactérien.
La bactérienne, des petits chanteurs à la gueule de bois sur RFI. À mon avis, leur revendication, juste un peu de considération, vous en fait sourire, Pascal Boussard.
Un commentaire. Tout le monde pense microbiote égale microbiote intestinal.
Oui.
Eh bien, c'est pas vrai. Il y a un microbiote sur la peau, il y a un microbiote dans votre cavité oro-buccale, un microbiote vaginal, ça c'est pour les hommes, les animaux, mais il y a aussi des microbiotes sur les racines des plantes, il y a des microbiotes à certains endroits des canalisations, il y a... Donc il faut
un microbiote, ce sont donc c'est pas seulement dans notre intestin, hein, pas du tout. Et c'est quoi? C'est un écosystème de micro-organismes, de bactéries qui...
Exactement. Microbiote veut dire assemblé de beaucoup de micro-organismes, d'accord? Donc vous pouvez aussi bien avoir des amibes, des bactéries, des parasites qui vivent en assemblée, qui vivent en équilibre. Il peut y avoir déséquilibre du microbiote, mais assimiler microbiote à microbiote intestinal, c'est quelque chose qui est inexact.
C'est bien de nous le rappeler, Pascal Cossard. Et on se rend compte aussi qu'il y a une question d'équilibre. On a parlé des bactéries, du microbiote. On a parlé des virus qui peuvent infecter des bactéries ou des êtres multicellulaires comme nous. Autour de la question comment fonctionne ce monde invisible du vivant, vous avez travaillé et mené des découvertes, notamment sur une bactérie pathogène, Listeria. Vous avez montré ses mécanismes de régulation par l'ARN. On comprend peut-être un peu mieux aujourd'hui, ou parce qu'on entend parler d'ARN, parce qu'on entend parler avec la pandémie du Covid-19, du lien qu'il y a entre les virus qui peuvent pénétrer par des ARN messagers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, ou est-ce que là, non, moi je vais trop loin dans ma compréhension? Non,
vous mélangez pas mal de choses.
Et oui, allez-y.
Mais disons que chaque organisme vivant a un patrimoine génétique, et chez les organismes vivants, ce patrimoine génétique, c'est de l'ADN. L'ADN compose les chromosomes. Cet ADN peut être copié à l'identique, et c'est ce qu'on appelle la réplication, c'est très bien illustré par Fabrice, ou alors il peut être copié pas tout à fait à l'identique, ça devient de l'ARN. Et si cet ARN est un tout petit peu lu par des petites machines qui s'appellent les ribosomes, ces ribosomes fabriquent des protéines. Chez les virus, là je parlais de tous les organismes sauf les virus, chez les virus, il n'y a pas forcément de l'ADN, il peut y avoir de l'ARN. Et chez le coronavirus, la vedette de cette année, on va dire, chez le coronavirus, à l'intérieur de l'enveloppe du coronavirus, il y a un grand ARN. Ce grand ARN, quand il arrive dans une cellule que le coronavirus a infectée, cet ARN, il est copié à l'identique, et un ARN donne un autre ARN, etc. Et il est lu par les ribosomes de la cellule, et il va y avoir des protéines qui sont fabriquées. L'ensemble, ARN et protéines, se met ensemble, s'auto-assemble, et la cellule va cracher des coronavirus. Alors maintenant, le mot ARN messager. Le messager, dans une cellule comme les vôtres, dans les cellules comme les miennes, l'ARN messager est un messager entre l'ADN et les protéines. Et donc, là, vous voulez aborder le problème du vaccin ARN messager. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ce vaccin, il est fait d'une petite bulle, si on peut dire. Et à l'intérieur de cette bulle, les industriels ont mis un petit fragment d'ARN. Et puis, c'est ça le vaccin. Et donc, quand le vaccin arrive dans vos cellules, cet ARN va être lu et puis la protéine va être faite. Et la protéine en question qui est faite, c'est la fameuse protéine S qui est sur la surface du virus. Donc votre corps fabrique la protéine S, uniquement la protéine S, et il va fabriquer par la suite, par conséquence, des anticorps contre la protéine S. Et c'est ces anticorps
qui vont nous protéger,
qui vous protègent,
vacciner, voilà, qui vous contre le coronavirus. Merci professeur Pascal Cossa. C'est quand même un sacré professeur pour arriver à comprendre, parce que vous, Fabrice Hibert, vous avez ensuite dessiné le coronavirus dont on parle tant, mais aussi l'ARN. Enfin, vous avez réussi à comprendre pour le dessiner justement.
Oui, absolument. Et en plus, les premiers moments pour dessiner tout ça, en fait, je n'arrivais pas à savoir les échelles de tout ça. Donc, j'ai vraiment consulté des documents. J'ai demandé, Pascal m'a beaucoup aidé à approfondir ce moment-là, puis sans savoir exactement l'échelle entre un virus, une cellule, l'ARN, les micro, enfin, toute cette échelle-là, en fait, c'était absolument complexe. Et puis, à un moment donné, en faisant des dizaines et dizaines de dessins, j'ai commencé à trouver les bonnes formes en jouant sur plein de niveaux différents, et ça a permis de trouver cette forme-là. Mais c'était un challenge étonnant, et c'était vraiment très agréable de le faire, en tout cas.
C'est très agréable à regarder. En tout cas, on comprend mieux aussi, hein, pour nous, oui. Et justement, ces questions d'échelle, enfin, je pense que les explications très scientifiques, mais de les textes de Pascal Cossard nous aident, mais aussi le regard sur ces dessins qu'on ne peut pas montrer à la radio, nous aide beaucoup autour de la question comment fonctionne ce monde invisible du vivant. Vous l'avez d'ailleurs écrit, hein, pendant cette pandémie du Covid-19. Ce monde invisible, du coup, il n'est rendu visible, hein, pour le pire souvent en ce moment, et pas pour le meilleur. Je propose un nouvel éclairage, celui de la physicienne épidémiologiste Victoria Kolitsa de l'INSERM. Elle est spécialiste de la modélisation des épidémies, à la tête de son équipe de recherche, hein, de l'INSERM. Elle travaille depuis plus d'un an sans relâche sur la modélisation du SARS-CoV-2, après avoir travaillé sur Ebola, sur MERS, sur le chikungunya. Et pourtant, elle aussi, elle insiste sur l'importance de l'équilibre de tous les micro-organismes pour le système immunitaire. Écoutez son éclairage, c'était ici même, dans ce studio, le 10 mars dernier.
C'est très important, je pense, après un an, et puis on verra combien de temps de Covid, on utilise tout le temps des gels hydroalcooliques, aussi comprendre qu'il y a d'autres éléments qui ne sont pas, par contre, pas des ennemis. Et d'un point de vue, effectivement, pour les organes digestifs, c'est très, très, très important, qui ont des impacts, au final, sur tous les corps, sur tout l'organisme, même sur notre capacité de concentration, notre énergie, etc. Ce sont des facteurs qu'on découvre assez rapidement maintenant, avec énormément de données, et qui nous aident vraiment à comprendre une partie qui peut-être était un peu cachée et dont on n'avait pas vu l'importance jusqu'ici.
Vous voulez dire aussi, Victoria Kolitsa, qu'il ne faut pas trop abuser de gel hydroalcoolique et pas tuer tous les microbes?
Non, dans le sens qu'il faut bien aussi être... Bon, il y a des avantages. Aujourd'hui, avec le gel hydroalcoolique, par exemple, on ne voit pas d'autres épidémies, notamment gastro. En France, en Europe, on a aussi presque rien de grippe. Et là aussi, c'est pour tous les gestes barrières qu'on adopte. Donc, ce sont des gestes qui nous aident sans doute à combattre les épidémies. Mais après, il y a aussi énormément d'immunologues qui sont convaincus que l'exposition à un certain nombre de microbes est si nécessaire pour construire et bien entraîner notre système immunitaire.
Pascal Cossard, vous voulez réagir à cet éclairage de Victoria Kolitsa?
Oh, je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle a dit. Il est clair qu'on sait que les microbes stimulent à bas bruit le système immunitaire. Donc, ils ne provoquent pas des grandes inflammations, des grandes catastrophes à l'intérieur de l'intestin, mais ils sont là, ils stimulent. Et puis, si jamais il y a un agent pathogène qui arrive, le système immunitaire est prêt à réagir. Donc, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il y a.
Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Est-ce que vous, Fabrice Hibert, en dessinant et les micropathogènes et la plupart d'entre eux qui ne le sont pas, est-ce que vous avez un peu plus compris le fonctionnement de notre système immunitaire?
Oui, j'ai compris. Enfin, il me semble avoir compris des éléments. Oui, j'étais surpris de plein de notions, mais je ne pourrais pas vous dire la liste, mais il y a beaucoup de notions différentes qui m'ont surpris et j'ai très envie d'en savoir plus. C'était... Et puis, en fait, c'est très agréable après ce challenge-là, en fait, je me suis surpris à pouvoir parler de microbes à des dîners, voilà, des moments, des rendez-vous. Donc, c'était très étonnant. Donc, il suffit, en lisant ce livre, c'est sûr qu'on apprend beaucoup de choses et après, on peut parler de tas de choses différentes. Et ça, c'est très, très agréable. Surtout des choses qu'on connaît mal ou qui est dit de façon assez succincte en général. Et par contre, dans ce livre-là, vous avez toutes les notions rassemblé dans un seul bouquin, c'est génial.
Exactement, j'adore. Avec vos dessins pour illustrer ça, notamment la page justement sur le système immunitaire, où on a envie d'écrire chaque dessin coloré à la radio. On se rend compte aussi de l'importance de cette microbiodiversité et de soutenir la vie et le vivant plutôt que de tuer le vivant. On a parlé des bactéries, on a parlé de la biodiversité, de la microbiodiversité. On parle aussi beaucoup des antibiotiques. Autour de la question comment fonctionne le monde invisible du vivant, tout de suite une nouvelle question pour vous, Pascal Cossard, soulevée par une immunologiste et entrepreneuse franco-kenyane, Yvonne Bourou, que j'ai joint par téléphone à Nairobi.
Quand je pense à ça, la première chose qui vient à ma tête, c'est la problématique liée aux résistances antimicrobes. C'est un des grands enjeux hein, qu'on va devoir élever. Et d'ailleurs, c'est encore plus axé en Afrique. C'est qu'aujourd'hui, à cause de l'abus des antibiotiques, on arrive à avoir un grand souci de résistance antimicrobiale. Et donc, ça nécessite que la recherche et le développement continuent à nous apporter des médicaments nouveaux chaque fois. Mais en fait, il faut absolument que la conscience de ça soit prise au niveau de la société. Et c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse des choix différents, comme ce qu'on utilise pour laver les mains. Vous savez, le savon, on n'a pas besoin de mettre antibiotiques dans le savon. Le savon fait déjà ce travail-là. Mais c'est des choix aussi d'agriculture, des antibiotiques, les animaux, les plantes, etc. Mmh. Mais ça veut dire aussi les êtres humains, la société, il faudra qu'on prenne conscience du fait qu'on va, il faut finir son dosage d'anticorps, d'antibiotiques, il faut finir ce dose-là, il ne faut pas s'arrêter au milieu. Je pense que les données mondiales montrent qu'en Afrique, c'est encore plus aigu. Ça nous amène aux problématiques liées, par exemple, à la tuberculose multirésistante.
Oui.
Et donc, les médicaments ne marchent pas, il faut des médicaments plus nouveaux, donc plus chers. Et donc, voilà, moi, j'aimerais avoir son regard sur la question de cette résistance. Connaissant les microbes aujourd'hui, le microbe effectivement devient encore plus pathogène. Et donc, cette problématique, où est-ce qu'on peut s'attaquer aujourd'hui pour véritablement déjà avoir la société consciente de l'enjeu et puis pouvoir s'attaquer à cette problématique de façon efficace.
Pascal Cossard, que pouvez-vous répondre à Yvonne Bourou? Parce qu'en France, on a eu beaucoup de campagnes, les antibiotiques, ce n'est pas automatique, je ne sais pas si elles marchent, mais sur le continent africain, il y en a eu moins de ce genre de campagnes, et on est face à d'autres questions terribles.
Oui, alors la résistance aux agents anti-infectieux, elle est valable pour les bactéries, et dans le cas des bactéries, on parle d'antibiotiques, elle est valable aussi pour les parasites. On a eu des résistances au plasmodium, c'est-à-dire ce micro-organisme qui est responsable de la malaria, du paludisme. Donc là aussi, on a des résistances. Chaque fois qu'on met en place un médicament qui est destiné à tuer un microbe, on s'expose au fait qu'on va pouvoir avoir des résistances. Donc, il faut beaucoup d'imagination pour essayer de créer des nouveaux médicaments. Donc, il y a deux choses. Essayer d'éviter la résistance et créer des nouveaux médicaments. Donc, pour éviter la résistance, j'ai envie de dire, il ne faut pas abuser. Alors, donc, maintenant, par exemple, en France et même en Afrique, on essaie de ne pas abuser des antibiotiques qu'on donne aux hommes, mais on en donne aussi aux animaux. Et on en donne aux animaux parce qu'on s'est aperçu que quand on donne des antibiotiques aux animaux, ils grossissent plus facilement, ils font une masse musculaire qui est plus abondante. Et évidemment, quand on veut produire des grosses vaches, on va
À court terme, on va donner des antibiotiques.
Voilà.
Enfin, quand on pense
et ça, c'est vraiment terrible parce que la régulation au niveau des animaux est beaucoup moins forte qu'au niveau des hommes. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut absolument innover, il faut créer des nouveaux médicaments. Alors, soit on va chercher des antibiotiques ou des antipaludéens ou des antiparasites en essayant d'avoir un peu d'imagination. On sait par exemple qu'il y a des populations qui utilisent des plantes, et par exemple l'artémisinine, qui mm-hmm. est une molécule qui est contre le palu, on l'a trouvée parce qu'on savait que les populations en Asie utilisaient, à partir de l'artémisinine, on utilisait des composés, sans savoir ce qu'il y avait, mais après avoir purifié, on a trouvé ce composé. Bon, ça c'est une des choses. Donc aller chercher dans les produits naturels des produits qui soit antimicrobien. Mais on peut aussi utiliser ce qu'on appelle la chimie thérapeutique, et essayer de créer des nouvelles molécules qui tuent ces agents. Et par exemple, je vais vous donner l'exemple par exemple du virus HIV, le virus du sida. Mmh. On est capable de lutter contre ce virus parce qu'on a trouvé des molécules chimiques qui vont contre les protéases, contre les réplicases, contre les polymérases. Et donc, avec une trithérapie où on utilise trois drogues qui vont contre les molécules qui permettent au virus de se répliquer à l'intérieur d'une cellule, on est capable d'arrêter cette prolifération du virus. Donc, pour les bactéries, c'est pareil. Vous savez, quand les sulfamides ont été découverts, c'était des molécules chimiques qui allaient contre les bactéries. Mais ça, c'était des produits chimiques. Donc, il y a toute une... Il y a toute une chimie à relancer, par exemple en France et dans le monde entier, qu'on a un tout petit peu mis en veilleuse.
Et puis, vous, il y a aussi une autre piste, magnifiquement illustrée aussi par Fabrice Hibert, c'est la piste des phages, c'est ça ?
Alors ça, c'est une piste que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait, on voudrait utiliser les phages, c'est des bactériophages, ce sont des virus de bactéries. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser des virus de bactéries pour tuer des bactéries qui auraient produit, par exemple, une infection. Là, je crois qu'on a illustré une infection à staphylocoque, donc une infection à staphylocoque sur la peau qui résiste à des antibiotiques. Eh bien, si on trouve un virus qui spécifiquement attaque ce staphylocoque, on va pouvoir guérir cette petite infection cutanée. Mais le problème, c'est que les virus sont très spécifiques. C'est-à-dire, un virus va rentrer dans une bactérie s'il y a la molécule qui lui convient sur la surface de la bactérie. S'il n'y a pas cette molécule-là, le virus n'affecte pas la bactérie. Donc, si vous voulez utiliser les bactériophages pour lutter contre les bactéries, il faut que vous ayez dans votre armoire une série de bactériophages, et vous essaierez, le jour où vous voudrez tuer une bactérie, vous essaierez tous les bactériophages que vous avez dans votre petit dans vos tiroirs, on va dire.
Est-ce que c'était drôle pour nous, ça l'est en tout cas, de dessiner ces virus qui pour une fois sont nos alliés, ces virus bactériophages, Fabrice Hibert?
Oui, mais c'est drôle de trouver les formes, en fait, ça, c'était ça. Ouais. Et puis d'imaginer que ça existe, c'est génial. Puis en fait, d'imaginer que le mal peut devenir bon, c'était ça, c'est une notion aussi qu'on trouve dans l'art.
Que le mal peut devenir bien. Oui, c'est ça.
Négatif peut devenir positif, quoi, c'est ça, en fait. Et en fait, c'est une notion qui existe beaucoup dans l'art, donc c'est très intéressant de mettre ça en place. C'était vraiment j'ai découvert tellement de choses en faisant ce livre que c'est génial. J'ai encore de tas de choses à découvrir.
Alors que si un virus arrive, par exemple, dans une usine qui fabrique des produits laitiers comme des yaourts, ce virus, c'est vraiment l'ennemi redouté de tous ces industriels qui fabriquent ces yaourts, ces petits sucres, etc.
Et oui, c'est ça, parce qu'il va manger, il va tuer toutes les bonnes bactéries qui nous servent, voilà. Si j'ai bien compris.
Voilà.
Ah oui, comme quoi la nature, on a l'impression, c'est un équilibre, mais que la nature peut être encore plus inventive que nous, et même plus inventive que les artistes. On a nos auditeurs sur les réseaux sociaux de Kinshasa, Christian Moussimbele, qui nous demandent, finalement c'est à tous les deux, moi j'ai la réponse parce que j'ai lu le livre, mais ce monde invisible du vivant, évidemment qui nécessite un microscope pour le regarder, il n'y a pas que le microscope, mais il y a pas mal de techniques microscopiques pour observer le vivant, Pascal Cossard.
Oui, bon, on ne fait pas que observer. Hein. On observe la façon dont les bactéries se multiplient, dont les virus rentrent dans les cellules, etc. Mais après, on a envie de comprendre les mécanismes qui sont impliqués. Et à ce moment-là, on est obligé d'isoler les molécules en question. Donc, on utilise par exemple des produits chimiques pour ouvrir tous ces organismes. Et puis, on isole les différents composants. On les remet ensemble, on fabrique des mutants et tout. Donc il n'y a pas que l'observation par le microscope qui permet à un microbiologiste de comprendre ce qui se passe. Il faut une combinaison d'approches, il faut utiliser différentes technologies qui sont plus ou moins sophistiquées. Il y en a qui sont très sophistiquées, qui nécessitent des microscopes très puissants, qui nécessitent le stockage d'informations dans des ordinateurs, là aussi très puissants. Et puis, il faut aussi des algorithmes, il faut aussi des méthodes d'analyse qui nous permettent de bien comprendre, de sortir les résultats de toutes ces données qu'on est capable d'accumuler.
Fabrice Hibert, pour un artiste, vous parliez justement de l'histoire d'échelle, dessinée du microscopique, c'est excitant ça aussi ?
Ah ben c'était très bien, c'est très excitant, mais surtout d'imaginer que quand on me racontait les histoires, quand Pascal me racontait les histoires, écrivait les textes, tout ça, en fait, d'imaginer la forme que ça prend, c'est très important qu'un artiste aussi puisse, et il n'y a pas beaucoup d'autres que les artistes qui puissent donner des images de choses invisibles, en fait.
Ça,
c'était une des choses en plus aussi, au-delà des algorithmes et des microscopes.
Autour de la question comment dessiner ce monde invisible du vivant, comment l'écouter aussi. Allez, vous avez choisi, c'est votre choix musical, Pascal Cossard, d'écouter La Tempête, extrait du troisième mouvement de la sonate 17 de Beethoven. Oui, c'est La Tempête, pas tout de suite, si ça vient sur RFI. Extrait de La Tempête, l'Allegretto de la sonate 17 de Beethoven. Merci, professeur Pascal Cossard, pour ce choix musical. Vous êtes notre invité en compagnie de l'artiste Fabrice Hibert. Autour de la question empruntée à votre génial ouvrage commun, comment fonctionne le monde invisible du vivant ? Ouvrage qui nous projette dans le temps et dans l'espace. Cette fois-ci, on va encore plus loin, encore plus fort. C'est un voyage en apesanteur que nous proposons maintenant jusque dans la station spatiale avec Thomas Pesquet, qui a emmené des blobs, ces étranges organismes sans cerveau, pour tester leur résistance, leur adaptation en apesanteur sans la force de gravité, en les comparant avec des blobs élevés sur Terre en même temps par des lycéens. C'est le programme Élève ton blob du CNES, supervisé par la spécialiste mondiale des blobs, la biologiste Audrey Dussutour, que l'on entendra juste après cette annonce intersidérale de notre spationaute préféré.
Bonjour à tous. Vous savez que je vais bientôt partir dans l'espace pour 6 mois dans le cadre de ma nouvelle mission Alpha. Alors je vous propose d'adopter un blob. Le blob, c'est un organisme unicellulaire qui peut atteindre plusieurs mètres carrés. L'idée, c'est de mesurer l'effet de l'impesanteur sur le comportement du blob. Le CNES et le CNRS m'ont proposé de réaliser cette expérience incroyable à bord de la Station Spatiale Internationale et que vous pourrez reproduire avec votre classe dès la rentrée prochaine. L'idée, c'est de mesurer l'effet de l'impesanteur sur le comportement du blob. Cet organisme n'a pas de cerveau, mais il est doté de capacités d'adaptation hors du commun. Pas mal, non ?
C'est un organisme unicellulaire assez particulier, assez ancien. C'est un organisme qui appartient au règne des amébozoaires. Donc c'est un règne qui est proche des champignons, c'est le cousin des champignons et des animaux. Donc c'est une cellule géante, parce que là, ce que vous voyez, c'est une seule cellule. Et c'est une cellule jaune, jaune vif, qui se nourrit de champignons et de bactéries. Mais en laboratoire, de flocons d'avoine. Alors le blob, on peut le trouver un petit peu partout dans la nature, dans les forêts. Donc la plupart du temps, c'est sous les écorces des arbres morts, dans les jardins aussi, à l'abri. Donc toutes les 8 heures, en fait, son matériel génétique double. Donc c'est pour ça que des fois, le blob, si on ne le nourrit pas assez vite, il s'échappe des boîtes parce qu'il va chercher de la nourriture par lui-même. on ne sait pas ce qui va se passer dans l'espace. Et moi, mon hypothèse personnelle, c'est qu'il va commencer à former des piliers, des structures en 3D, puisqu'il sera plus limité par la gravité. Et donc, on risque d'avoir un blob plutôt avec des formes, des piliers, etc., qu'un blob tout plat.
Comment le blob va-t-il réagir dans l'espace? Avant de vous donner la parole, Pascal Cossard, je voudrais quand même m'arrêter sur le blob dessiné magnifiquement par Fabrice Hibert, d'un jaune fluo. Hein. Il est impressionnant, votre blob, Fabrice Hibert.
Oui, c'était facile de donner une forme. Ça, c'est vraiment très organique. C'est le pire des organismes vivants qu'on peut dessiner à plat comme ça.
Et
c'est
monstrueux.
Si on va l'imaginer dans l'espace, ça va être génial.
Eh bien, on verra bien. Pascal Cossard, que pensez-vous qu'il va arriver au blob dans l'espace ?
Je ne sais pas, il va peut-être y avoir une des pattes du blob qui va se soulever. Non, j'étais au courant de ce projet et je trouve ça absolument amusant et très intéressant. Parce que le blob, il faut le dire, il s'étale. C'est comme une amibe qui s'étale et qui s'étale sur des grandes surfaces. Mais de dire qu'en apesanteur, peut-être qu'il va y avoir un blob qui va pousser en l'air, c'est amusant.
Jusqu'où pourrait nous entraîner toute cette recherche? Parce que vous continuez vos recherches, évidemment. Hein, c'était qu'une parenthèse, géniale parenthèse, cet ouvrage, Pascal Cossard. Jusqu'où espérez-vous que nous entraînent vos recherches, en particulier les recherches en général sur les micro-organismes?
Moi, je pense qu'on va en connaître de plus en plus, évidemment, sur micro-organismes et santé. Mais on va en connaître de plus en plus sur micro-organismes et environnement. Et je pense que de ce côté-là, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Donc, tout ce qui concerne les écosystèmes, de comprendre qu'est-ce qui les dérégule, comprendre qu'est-ce qui pourrait faire que... En faisant une opération, on est obligé d'en faire une autre pour que l'équilibre se maintienne. C'est de ce côté-là où la microbiologie va faire d'immenses progrès. On a fait dans les 30 dernières années, je dois dire, d'immenses progrès pour la connaissance des infections. Mais là, je pense que du côté de l'écologie, du côté de l'écosystème planétaire, on va vraiment faire des grands progrès. Surtout que cette épidémie de corona nous montre qu'il n'y a plus de frontières. Donc là, maintenant, c'est la biologie planétaire qu'on est obligé d'analyser. Et la microbiologie planétaire, à mon avis, va faire des grands progrès. On va comprendre ce qui se passe dans les océans, on va comprendre ce qui se passe dans les rivières, on va comprendre ce qui se passe plus au nord, plus au sud. Je pense qu'il va y avoir une explosion de la microbiologie.
C'est le meilleur qu'on puisse souhaiter collectivement. Merci infiniment, Pascal Cossard, d'avoir partagé votre science avec légèreté et profondeur. Merci, Fabrice Hibert, d'avoir partagé votre art. Génial, hein. On est à la radio, mais là, c'est vrai que parfois, je le regrette un peu. Chers amis auditeurs, venez sur nos réseaux sociaux et puis vous en verrez plus. Sachez aussi que vous pouvez gagner, remporter un exemplaire de cet ouvrage Le monde invisible du vivant, signé pour les textes Pascal Cossard et pour les dessins peintures aquarelles Fabrice Hibert aux éditions Odile Jacob. Merci à tous les deux, merci professeur Pascal Cossard.
Merci.
Et merci Fabrice Hibert.
Merci beaucoup.
C'était
merci.
Un plaisir pour les yeux, les oreilles. J'ai l'impression que tous mes microbiotes partout sont ravis d'avoir été en votre compagnie.
Merci, merci à vous.
Merci, merci.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à partager, à volonté et à vous abonner à notre podcast. Bien sûr, au plaisir de vous retrouver lundi prochain avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Achowski au micro pour vous servir et pour continuer de partager ensemble toutes les interrogations possibles et imaginables. Merci de votre fidélité, merci de votre interactivité. Portez-vous bien, surtout restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.